Bouzin joue aujourd'hui à Hambourg et affronte l'Indien Sumit Nagal, 127e joueur mondial. Bonne soirée.
Retrouvez chaque lundi, de 18h à 20h, toute l'équipe de la rédaction de Sport Plus avec Henri et Willy.
Tous les résultats sportifs régionaux, nationaux et internationaux dans toutes les disciplines. Réactions, interviews et des invités chaque semaine. Sport Plus, votre émission 100% sport sur Radio Plus avec Henri et Willy.
Radio Plus, on y est bien.
Auditeurs, auditrices, et vous qui nous écoutez sur Internet et sur le DAB+, bonsoir à tous, bienvenue dans l'émission Sport Plus. Bonsoir Henri.
Bonsoir Willy.
Comment vas-tu?
Bah ça va, coup-ci coup-ça, mais ça va, enfin une journée à la fois.
Hein. Eh oui.
C'est pas le Covid qui m'embête, hein. C'est autre chose, bon, mais ça me chagrine quoi, voilà. Bon, je en saurai plus demain. Bon, on n'est pas là pour parler santé, on n'est pas là pour parler météo parce que bon, il n'y a pas plus aujourd'hui, mais je pense qu'on aura de la pluie demain. On parlera rugby pour la première fois ici dans cette émission, enfin, en recevant quelqu'un. Et j'ai l'honneur de recevoir Monsieur Olivier Gradel, le président du rugby club Olympique Métro, enfin, Marc Rugby Club. Marquois Rugby, c'est ça? Olympique Marquois Rugby.
Oui, c'est ça, Henri. Voilà. Bonsoir à vos auditeurs.
Et j'ai le plaisir d'accueillir Clément, Poneuf Rugby.
Bonsoir à tous, bonsoir Olivier.
Qui prend en grande partie dans cette interview. Alors, monsieur Gradel, première question, je veux dire, je vous ai connu en tant qu'handballeur. C'est vrai que, vu mon âge, je vous ai connu en tant qu'handballeur. Et puis maintenant, être au rugby. Comment ça s'est passé, cette transaction du handball vers le rugby?
Alors, Henri, On va se tutoyer,
ouais, hein,
c'est plus sympa. Tu dois le savoir, mais moi je suis issu à la base d'une famille de rugbyman, hein, puisque mon père était rugbyman, mon grand-père était rugbyman. Mon grand-père a fait partie, joint des fondateurs du club d'Arras. Mon père a joué aussi à Arras et était président du comité des Flandres pendant plusieurs mandats. Et donc j'ai baigné dans un environnement de rugby. Et quand j'étais jeune, j'ai joué au rugby avant de jouer au handball. Et malheureusement, grand dame de ma famille, il a fallu choisir une des deux disciplines et je suis parti vers le handball parce que j'étais sur la métropole lilloise et à l'époque, c'était un sport qui était plus développé que n'était le rugby. Voilà, et j'ai eu la chance, tu le sais, de faire carrière dans le handball puisque j'ai joué dans plusieurs clubs de première division.
Ah oui, tout à fait. Hein.
Voilà.
C'est quand même, vous avez manié ce petit ballon que, disons, en ce temps-là, il n'y avait pas de colle comme maintenant. Maintenant, c'est de la colle à l'impossible qui salit les terrains, d'ailleurs.
Tout à fait.
Mais en ce temps-là, c'était moindre, hein, beaucoup moindre. Même, il n'y avait même pas de colle.
Bah, si, j'ai quand même connu la colle, même s'il y en avait moins qu'aujourd'hui. Et donc, comment je suis arrivé au rugby? Eh ben, par mon fils, en fait, puisque quand je suis rentré, j'ai fini ma carrière à Ivry, en région parisienne, Ivry-sur-Seine, qui est un des clubs historiques du handball français. Et quand on est rentré en métropole lilloise, j'ai inscrit mon fils au rugby. Et c'est comme ça que je suis arrivé au club de l'Olympique Marquois Rugby. D'abord comme papa de joueur. Et puis j'ai intégré le comité directeur il y a maintenant 7 ans. Et donc je suis président du club depuis un peu plus d'un an maintenant.
Depuis un an, c'est voilà. Ça. Alors justement, je vais passer la parole à Clément pour parler de votre club. C'est vrai qu'on a eu des clubs dans la région, mais c'est difficile. Hein. On l'a vu avec Lille Métropole Rugby Club. Les filles de l'MR Villeneuve-d'Ascq, c'est pareil. Avec les sœurs ménagées qui sont parties à Montpellier, c'est plus pareil, c'est toujours une histoire d'argent. Enfin, moi, je veux dire, l'argent pourrit le sport indirectement. Pour moi, hein, personnellement, je ne sais pas si vous le voyez ainsi, mais Clément veut faire l'interview. Allez Clément, c'est à toi.
Alors, comme on le sait, vous et moi, vous avez acquis pour la première fois de votre histoire une place en Fédérale 1 cette année, dans le troisième échelon du rugby français, dans des conditions assez particulières, comme on le sait, puisque vous êtes monté. Sans hors terrain, le confinement avait déjà été annoncé et on a validé votre montée puisque vous étiez premier de votre poule de Fédéral 2. Comment vous avez vécu un peu cette montée très particulière?
Alors oui, montée particulière parce qu'on n'a pas pu faire les traditionnels play-offs qui permettent d'accéder au rugby à l'échelon supérieur. Voilà, maintenant, ça faisait 3 ans qu'on évoluait en Fédéral 2. C'était la deuxième année où on était à la fois en tête de notre poule, mais dans les deux premiers au niveau du classement national. Et donc, je pense que sportivement, on avait montré sur le papier qu'on avait, on méritait cette accession au Fédéral 1. On s'y préparait depuis 3 ans. Et voilà, c'est... Alors, il y a toujours ce regret de ne pas participer aux play-offs, parce que c'est... Alors, on est d'abord là pour être sur le terrain. Après, ben, on a tous vécu la situation du Covid comme toutes les disciplines sportives. Il a fallu appliquer les règles qui nous étaient fixées. Et bon, au bout du compte, on s'en est bien sorti puisqu'on avait cette ambition de monter et on a acquis cette montée. Voilà, maintenant, ben, on redécouvre cette Fédérale 1 et toujours dans un contexte un peu particulier, hein, faut l'évoquer. Mais on est très content d'y être et puis on a de plus grosses ambitions dont on parlera après.
Alors bon, les playoffs qui attribuent le titre et les montées.
Et les montées,
voilà,
tout
mais
à fait.
Mais à titre également.
Effectivement, comme le disait Clément, on était quand même premier de notre poule et puis on était surtout deuxième toute France avec une seule défaite. Donc... Enfin, je pense qu'on avait et l'équipe et l'effectif et réalisé le parcours qui nous donnait le droit et l'ambition d'accéder à l'échelon supérieur.
Donc vous avez débuté maintenant depuis quelques semaines en Fédéral 1 par des résultats assez probants sur le fond comme sur la forme. Quels sont à court terme les objectifs de Marc Cambarel en Fédéral 1?
Alors le premier objectif, c'est de se maintenir le plus rapidement possible. Voilà pourquoi, pour justement avoir l'ambition de finir dès cette année dans la première partie du championnat et pourquoi pas aller disputer des play-offs. Alors on n'a pas l'ambition de monter à l'échelon supérieur dès cette année, hein, c'est bien une année d'apprentissage et on a pu le voir d'ailleurs au cours du dernier match où on a rencontré le leader de la poule, qu'il y avait quand même une grosse marge entre une équipe comme Rennes qui avait l'ambition de monter et puis nous qui étions en apprentissage. Néanmoins, on est ambitieux. Et si je fais le parallèle avec le projet qu'on s'est fixé, quand on a repris ce projet-là il y a 4 ans, on s'était fixé comme objectif de monter en Fédéral 2. Ça, on l'a fait en un an. On s'était donné 3 ans pour monter en Fédéral 1. On a réalisé cet objectif, même si ça s'est fait sur tapis vert. Ben là, c'est pareil. On a toujours cette ambition de créer ce fameux grand club professionnel au nord de Paris. En s'appuyant sur la métropole lilloise, parce qu'on sait que le bassin économique de la région, il est quand même basé essentiellement sur cette métropole. Et vous l'avez dit, aujourd'hui, le rugby de haut niveau, ça nécessite des moyens économiques importants. Et donc, il y a cette notion d'argent qui revient. Voilà, donc nous, on a l'ambition de continuer à avancer et dans les années futures, de réussir à stabiliser un club professionnel dans les Hauts-de-France et autour de la métropole lilloise, même si c'est une métropole qui se veut rayonnante sur tous les Hauts-de-France et notamment sur le bassin minier.
Justement, tout à l'heure, vous avez parlé d'Arras, où vous y étiez. Hein, il y a la fameuse époque des années 80 où Arras côtoyait l'élite nationale du rugby.
Tout à fait. Je me souviens d'ailleurs d'être allé voir des matchs tout petit.
À Grimaldi.
Tout à fait, avec mon père, et j'en garde d'excellents souvenirs. On a eu la chance d'accueillir des équipes comme Agen, comme Biarritz. Serge Blanco a joué à Arras.
Toulon.
Toulon, effectivement. Et ça reste de très, très beaux souvenirs. Et j'espère qu'un jour, on aura à nouveau la chance d'accueillir des équipes de Pro D2 ou Top 14 dans le Nord, et pourquoi pas au Stadium, hein, puisqu'on a la chance de jouer dans une belle enceinte. Ça va prendre encore un petit peu de temps, il ne faut pas brûler les étapes, mais c'est vraiment l'ambition qui nous porte aujourd'hui, et une ambition qui n'est pas juste celle de l'Olympique Marquois Rugby, hein. D'ailleurs on ne s'appelle pas Olympique Marquois Rugby, aujourd'hui on s'appelle Olympique Marquois Rugby Lille Métropole, et c'est important de le dire. Ce projet, c'est aussi un projet qui est porté par la métropole européenne de Lille au niveau politique, c'est un projet qui est soutenu par la région Hauts-de-France, assez fortement. C'est un projet qui est soutenu aussi par la Ligue des Hauts-de-France de rugby, même s'ils soutiennent aussi Beauvais, hein, qui est au même niveau que nous. Voilà, et c'est un projet qu'on essaie de construire aussi en lien avec les autres clubs de la métropole, voire plus large. Et on est en train de développer des partenariats avec, dans un premier temps, tous les clubs du Nord, mais pourquoi pas demain, les clubs du Pas-de-Calais aussi. On sait qu'aujourd'hui, au niveau des valeurs, il y a des nombreuses valeurs communes entre les valeurs du rugby et les valeurs des gens du Nord. Il y a la place pour développer cette activité de manière importante dans le Nord, même si c'est une terre de football à l'origine. Hein. Et il y a la place, pourquoi ? Parce qu'on a des valeurs communes qui sont les valeurs de partage, des valeurs d'engagement, des valeurs de solidarité, de labeur, de travail. Et ça se voit, puisqu'à chaque fois qu'on organise un gros événement rugby dans le Nord, ben, y a toujours du monde. Rappelez-vous de la Coupe du Monde à Lens, rappelez-vous des demi-finales du Top 14 à Pierre-Mauroy, le dernier France-Argentine, alors qu'au Stade de France, il y avait à peine 20 000 spectateurs, il a fait quasiment terrain comble à Mauroy. Donc il y a un terreau fertile qui apprécie le rugby dans le Nord.
Puis c'est un vecteur, disons, pour la promotion du rugby en région Nord.
Ouais, oui, tout à fait.
Également, je veux dire, par rapport à ce que les Hauts-de-France mettent dans le rugby, c'est-à-dire maintenant, le rugby amateur est reconnu à l'échelon de la Fédération française de rugby. Chose qu'avant, on ne sait pas. Maintenant, les clubs amateurs ont leur droit de vote par rapport à la fédération pour élire le président. Chose qu'il y a 15-20 ans, ça n'existait pas.
Alors, ils l'ont toujours eu.
Plus ou moins.
Théoriquement.
Théoriquement, oui. Voilà.
Théoriquement. C'est vrai que cette année, on était en période d'élection, vous le savez. Et le fait de pouvoir mettre en place ce vote électronique à distance, en tout cas, a donné le sentiment à chaque club de pouvoir s'exprimer. Et d'ailleurs, il y a eu un taux de participation proche des 90%, donc ce qui est assez... nos hommes politiques rêveraient d'élections avec une participation à 90%. Et donc, ça a probablement été effectivement l'élection la plus démocratique, entre guillemets, qui a lieu depuis très longtemps dans le milieu du rugby. Et d'ailleurs, le résultat était très serré, puisque Bernard Laporte l'a emporté d'une courte tête, qui prouve qu'il y a eu des vrais débats... voilà. Effectivement, aujourd'hui, on a une fédération qui pousse et qui essaie de soutenir les clubs amateurs. C'est d'autant plus important qu'on est dans une période très compliquée d'un point de vue économique à cause de la crise sanitaire. Hein, donc, il faut l'avoir en tête. Et puis, on a aussi une fédération qui cherche à développer et à aider le développement des rugby dans des régions qui ne sont pas historiques. Je sais que Clément est originaire du Sud-Ouest. C'est vrai que dans le Nord, on a une vraie opportunité en fait, puisque finalement il n'y a pas de concurrence. On est quand même au cœur de trois capitales, hein, puisque on a Paris qui n'est pas si loin que ça, et avec l'Île-de-France qui a un fort bassin de rugby. On a Bruxelles qui n'est pas très loin, et le rugby c'est un sport qui est en train de se développer en Belgique et aux Pays-Bas aussi, il faut le savoir.
Ils ont frôlé la qualification pour le mondial 2019 à Tokyo.
Tout à fait. Et puis on a la Grande-Bretagne, qui est une terre de rugby, qui est pas si loin. Alors même si là, avec le Brexit et puis avec le Covid, c'est plus compliqué d'y aller. Moi, je reste convaincu qu'on a tout pour réussir dans le développement de cette activité dans les Hauts-de-France. Et en tout cas, c'est le projet qu'on veut porter.
Et puis avec la renaissance du rugby à l'échelon d'équipe de France, c'est un vecteur... en plus, pour avoir le rugby dans la région.
Complètement. De toute façon, on sait que pour qu'un sport attire, il faut qu'il y ait une vitrine. Donc, on a besoin d'une équipe de France forte. Et moi, je suis le premier supporter de l'équipe de France, comme tous les Français. Hein. Et je suis très ravi de voir qu'on se remet à gagner. Et à l'image de l'équipe de France, bah, dans une région, il faut aussi une vitrine. Pour l'instant, on n'en a pas. Et donc, on rêve de construire cette vitrine qui donne envie qui donne envie en fait aux nordistes d'adorer le rugby. Quoi.
Comme on le sait, en 2023, la Coupe du Monde aura lieu en France. Et Bernard Laporte disait à notre micro que c'était important de pouvoir concerner tout le territoire et qu'il y ait une équipe d'élite sur tout le territoire français, que ce soit dans le Nord, que ce soit en Bretagne, que ce soit en Alsace, Lorraine, Grand Est. Est-ce que vous pensez que ce mondial peut apporter quelque chose? Qu'est-ce que vous pensez que ce mondial peut apporter à des clubs comme Marc qui évolue en Fédéral 1?
Alors, ça doit être un super accélérateur. Donc, Bernard a raison là-dessus. Hein. On a la chance d'avoir une poule qui va se dérouler à Pierre-Mauroy. Donc, à nous de travailler main dans la main avec les institutionnels, que ce soit politiques locaux ou au niveau de la Fédé, mais aussi avec nos entreprises partenaires pour se servir de cette Coupe du Monde comme un super levier dans notre développement. Quand on a décidé avec Frédéric Alluin, qui était mon prédécesseur, de reprendre en main ce projet de construction d'un grand club de rugby au nord de Paris, on s'était fixé comme échéance 2023. On s'étant dit à l'époque on rêverait d'être en 2023 en Pro D2 et faire notre premier match au stadium en parallèle du lancement de la Coupe du Monde à Pierre-Mauroy, puisque les périodes coïncideront à peu près. Alors, est-ce qu'on y arrivera? On verra bien. Il faut avoir de belles ambitions, mais en tout cas, on est persuadé que la Coupe du Monde, ça doit être une locomotive. Et on travaille déjà main dans la main avec la métropole européenne de Lille qui va accueillir à Pierre-Mauroy cette Coupe du Monde, en tout cas une des poules, pour se servir de cet événement comme un levier pour le club, mais enfin pour le projet, mais pas uniquement, un levier aussi de développement du nombre de licenciés dans les Hauts-de-France. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, notre premier enjeu, et le premier enjeu qu'on doit tous partager au niveau des clubs, au niveau des passionnés de rugby dans les Hauts-de-France, c'est de développer le nombre de licenciés. On est une des régions les plus peuplées de France et on n'a que 10 000 licenciés dans les Hauts-de-France. C'est rien, dont 2500 sur la métropole lilloise. Voilà, notre première motivation, ça doit être de multiplier ce nombre par 2, par 3, par 4. Et vous évoquiez tout à l'heure les territoires qui ne sont pas les territoires historiques qui ont réussi ou qui ont commencé à se développer au niveau rugby. Y a un exemple qu'il faut prendre, c'est celui de la Bretagne, qui fait un travail de fond assez exceptionnel maintenant depuis une vingtaine d'années. Et qui a réussi à multiplier son nombre de licenciés par 4-5, et qui, là aussi, a réussi en plus à s'appuyer sur des clubs vitrines. Donc il y a Vannes qui est monté en Pro D2 et qui est en train de vraiment de s'asseoir en Pro D2 et qui peut-être un jour sera en top 14. Il y a Rennes, on l'évoquait tout à l'heure, qui va probablement monter à l'échelon supérieur. Et donc, c'est un peu le modèle.
Il y a La Rochelle.
Ouais, il y a La Rochelle qui est pas très loin, mais c'est pas la Bretagne.
Non, mais enfin, c'est un peu entre les deux, quoi.
Non, c'est pas tout à fait la
Bretagne.
Mais
ça vient nourrir. En tout cas, c'est un exemple dont on doit s'inspirer. Et c'est passé par quoi? C'est passé par cette capacité, justement, à multiplier le nombre de licenciés par 3, 4, 5. Et donc, ça veut dire que nous, on doit contribuer à aller chercher des gamins pour les amener au rugby, et donc c'est du travail dans les écoles, c'est du travail dans les quartiers sensibles, pour amener les enfants vers la pratique du rugby, qui est un sport tout simplement top. Hein. Toi, Clément, tu as fait du rugby à l'école de rugby, j'imagine que tu en gardes des super souvenirs aussi.
Évidemment, ça restera probablement parmi mes meilleurs souvenirs sportifs dans mon existence. Pour en revenir à Marc, pour votre première saison en Fédéral 1, le sort vous a quand même réservé un groupe assez dépaysant avec pas moins de 8 clubs dans la région du Sud-Ouest. Comment vous appréhendez tous les déplacements qui vont vous attendre d'ici au mois de mai?
D'abord, ça fait beaucoup de kilomètres. Hein. On est le club qui va faire le plus de kilomètres en Fédéral 1, il faut le savoir. Mais moi, je le prends avec beaucoup de plaisir et nos joueurs et notre staff aussi, parce que je trouve que c'est quand même une chance de rencontrer des vrais noms de rugby. Je pense à Périgueux, je pense à Marmande. Voilà, c'est des clubs qui parlent, enfin qui parlent rugby. Et donc, franchement, voilà, c'est une belle opportunité. C'est aussi une belle région. Donc, d'un point de vue visite, ça va être sympa. Ben on espère que les matchs, en tout cas, pourront se dérouler malgré le contexte actuel, puisque on a déjà eu deux matchs de reportés. Et donc, j'ai envie de dire, l'incertitude, elle est plus là-dessus que sur le fait de pouvoir aller jouer dans le Sud-Ouest, qui est une énorme chance, et, que ce soit en termes de région et en termes de pratique du rugby.
Alors expliquez-nous là, ce match, l'un des deux, là, c'est ce week-end, vous devez recevoir Périgueux. Alors l'annulation, ça s'est fait comment ?
Eh ben, de manière très, très simple. Donc on ne devait pas les recevoir, on devait se déplacer, mais c'est pareil, ce n'est pas très grave, parce que si on avait dû les recevoir, ça aurait été la même chose. Ben, on a fait un test Covid où on s'est rendu compte qu'on avait 4 cas positifs. Plus un cinquième qui avait été positif un peu avant. Comme il y avait eu, donc ce test on l'a fait jeudi, comme il y avait eu des cas contacts le mardi d'avant, il y avait un risque qu'en réalité on ait plus de cas positifs que ce qu'on imaginait. Et donc on a pris, après avoir consulté l'ARS, la décision de mettre l'ensemble du groupe senior, joueurs et staff, à l'isolement pendant une semaine, et donc de demander le report du match à la fédération, ce qui n'a pas posé problème. On a aussi prévenu l'équipe de Périgueux, qui a parfaitement compris la situation. Et donc on reteste l'ensemble de l'effectif demain matin. Donc il y aurait les 7 jours de carence qui seront passés, et on verra si en tout cas toutes les personnes qui seront négatives auront le droit de reprendre l'entraînement. Mais on verra s'il y a plus de cas ou moins de cas. En tout cas, on s'est mis en isolement complet. Donc ça veut dire que depuis ce test, les joueurs ne s'entraînent pas, ils sont restés chez eux, et on verra ce que donnent les résultats du test de demain. Donc ça, j'ai envie de dire, c'est le quotidien de la vie de sportif en ce moment. C'est d'être régulièrement testé pour voir si on peut pratiquer son activité ou pas, et c'est d'être extrêmement prudent, c'est-à-dire que quand on se rend compte que il y a un risque entre guillemets de cluster, il faut pas prendre de risque, et donc il faut se mettre en isolement. Voilà, donc c'est la règle qu'on a appliquée en prévenant l'ARS et en appliquant ses consignes.
Donc systématiquement vous faites un test PCR toutes les semaines?
Enfin, alors, on ne le fait pas toutes les semaines.
Mais à chaque match, avant le match,
non,
peut-être.
On ne le fait pas systématiquement. On l'a fait à chaque fois qu'on a eu des soupçons de cluster. Ouais. Voilà. Mais non, on ne le fait pas systématiquement. Là, en l'occurrence, le test de demain doit nous permettre d'évaluer qui est positif, qui est négatif. Ceux qui sont négatifs auront le droit de reprendre l'entraînement. S'ils sont suffisamment nombreux, n'ayant pas de match ce week-end, on pourra jouer le week-end d'après.
Ouais. Donc vous êtes arrivé en Fédéralune avec une petite surprise dans vos bagages, l'ancien pilier sud-africain, champion du monde en 2007 avec les Springboks, Gert Rostenkamp, qui est vraiment un apport quasi inédit au niveau Fédéralune, surtout dans une situation où vous allez pour la première fois devoir jouer des mêlées à un niveau professionnel.
Tout à fait. Et Gurtro, ça a d'abord été une formidable rencontre humaine. Hein. Alors, c'est pas moi qui l'ai faite la première fois, c'est Philippe Caloni, notre manager général sportif et coach principal. En fait, Philippe m'avait dit, quand on est monté, tu verras, Olivier, on a un bon groupe, on a un beau groupe pour réussir. Par contre, la grosse difficulté, ça va être la mêlée. Parce que la différence entre le rugby professionnel et le rugby amateur, c'est que dans le rugby professionnel, les mêlées, elles sont poussées jusqu'au bout, ce qui n'est pas le cas de ce qu'on avait vécu jusqu'à présent. Et dans l'effectif, effectivement, à l'exception de Guillaume Potel, qui est notre capitaine historique, qui avait connu la Fédéralune avec le LMR, on n'avait pas de joueurs qui avaient cette expérience des mêlées poussées. Et donc Philippe a pris contact un peu par hasard sur LinkedIn avec Gurtro, Gurtro, donc qui s'est spécialisé dans l'accompagnement en fait de certains groupes sur le coaching de la mêlée, et il est tombé sur quelqu'un de super. Alors Gurtro, il entraîne à très haut niveau, donc il aurait pu nous envoyer balader parce que nous on a encore un petit niveau. Hein. Si on compare à son palmarès de champion du monde ou champion de France avec le Stade Toulousain. Et non, au contraire, il s'est montré très ouvert et en fait, il nous l'a expliqué de manière très simple en disant, moi, si j'ai envie d'apprendre et de continuer à progresser en tant que coach mêlée, finalement, c'est pas en entraînant des gens qui savent déjà que je vais apprendre le plus de choses. Par contre, aller accompagner un groupe qui va découvrir ce que c'est que la mêlée professionnelle entre guillemets, moi je vais leur apporter quelque chose, mais ça va aussi m'aider à progresser dans ma pédagogie. Et en fait, Gurtro, finalement ce que je viens de dire, c'est ça, c'est quelqu'un à la fois très pro, très pointu, mais aussi très accessible et très humble. Et franchement, travailler avec un mec comme ça, c'est un grand bonheur. Donc pour l'instant, même si on est au début de l'histoire, et qu'on verra où elle nous conduit, on passe de super moments et il nous a déjà aidé à bien progresser.
Alors bon, disons que c'est un apport vraiment pour évoluer dans le bon sens.
Tout à fait, ouais. Tout à fait. Et puis au-delà de ça, c'est quelqu'un de très accessible, qui parle un français remarquable, puisqu'il est d'origine sud-africaine. Hein. Et donc, même au-delà de ce qu'il apporte sur le terrain en termes d'image, mais pouvoir associer un champion du monde à l'image du club, c'est aussi super pour notre image à nous, quoi, en termes de renommée et de notoriété.
Les joueurs leur demandent des conseils ?
Oui, complètement.
Complètement ?
Oui, oui. Et puis, il a su tout de suite créer la connexion avec eux. Et. Il apporte non seulement à nos joueurs, mais il apporte aussi à notre staff par son expérience. C'est bien aussi de confronter en fait son expérience à la nôtre. Et alors vous le savez peut-être pas, mais depuis sa dernière intervention, il vient aussi donner un coup de main aux filles du LMRCV dont vous parliez tout à l'heure, qui sont dans une phase de renouvellement entre guillemets, puisqu'il y a toute une génération qui a arrêté ou qui est partie et donc qui reconstruit un projet là sur une génération un peu plus jeune qui est très très prometteuse mais qui a besoin aussi d'expérience. Et donc Gurtro donne un coup de main aussi au staff du LMRCV sur cette partie mêlée qui est importante.
Et alors justement, il analyse ça disons, par rapport au match qui s'est joué sur les vidéos pour recadrer l'ensemble lors des entraînements ?
Alors il fait les deux, c'est-à-dire qu'il vient animer des séances d'entraînement. Donc là, il travaille de manière très spécifique et individuelle en observant un petit peu l'attitude des joueuses ou des joueurs. Mais il fait également effectivement de l'analyse vidéo par rapport au match qu'on a pu jouer ou qu'elles ont pu jouer. Et en observant ce qui s'est passé au niveau de la mêlée.
Non, il est adepte des mêlées ordonnées.
C'est un spécialiste de la mêlée ordonnée. aujourd'hui le rugby c'est pas que la mêlée, et ça reste quand même les Anglais le disent bien, no scrum, no win. Donc pas de mêlée, pas de victoire. Ça reste quand même une rampe de lancement extrêmement importante dans le rugby, la mêlée.
Tout à l'heure vous parliez de star, de la renommée que pouvait apporter un joueur comme Gurtro Steenkamp, un club comme Marc Cambarel. Et on voit que de plus en plus de grands noms du top 14 s'exilent petit à petit, redescendent pour évoluer en Fédéral 1, pour découvrir un nouveau rugby. Je pense à David Smith qui a joué pendant 2 ans quand Narbonne a joué et était redescendu en Fédéral 1. Et est-ce que l'OMR pourrait être le prochain club à accueillir un grand nom du top 14 en ses rangs?
C'est une belle question.
C'est un projet.
Mais c'est une belle question et ça va me permettre de vous parler un peu de notre projet, parce que je vous ai pas du tout parlé du club et je vais quand même en toucher un petit mot. Le club aujourd'hui, il existe bientôt depuis 50 ans, hein, puisqu'il a été créé en 1971. C'est en moyenne 450 licenciés. On espère cette année d'ailleurs atteindre la barre des 500. On était dans une dynamique un peu compliquée de perte de licenciés, un peu comme l'ensemble du rugby français ces dernières années, mais on est en train de réinverser les tendances pour deux raisons. Ben, la première, c'est qu'on est allé dans les écoles pour prêcher la bonne parole, et donc on a beaucoup de gamins qui reviennent vers le rugby. Et la deuxième bonne raison, c'est ce que vous disiez, c'est que on a une équipe de France qui se remet à gagner, donc ça attire les jeunes.
Et puis également vos résultats.
Ouais, tout à fait.
Quand même.
Et nos résultats, bien sûr. Et en fait, on est en train de professionnaliser le club. Mais professionnaliser le club, c'est pas le faire n'importe comment. C'est le faire d'abord en le structurant. On a la chance de s'appuyer sur 60 bénévoles au club. Et ça, c'est une richesse extrêmement importante. Alors, je sais que Radio Plus s'appuie aussi sur des bénévoles. Et dans les 60 bénévoles, on a à peu près une quarantaine d'éducateurs ou d'entraîneurs. On structure aussi le club, puisqu'on a une dizaine de salariés, donc c'est pas neutre, hein, dont un peu comme vous aussi, deux ou trois personnes qui sont en apprentissage. Voilà. Et on est très attaché à un truc, c'est que on veut s'appuyer sur la formation. Et on veut avoir une certaine identité nordiste. Et donc, ça veut dire qu'on va privilégier aussi la formation du joueur et le fait de les faire grandir. Et donc, on n'est pas dans une stratégie, entre guillemets, de mercenaires. J'en arrive à la question que vous me posiez, mais c'est important de... Par contre, moi, ma conviction, et ça, je l'ai vécu quand j'étais joueur de handball, et c'est la conviction aussi qu'a Philippe, c'est qu'à un moment, pour faire grandir des joueurs en local, il faut aussi des gens de l'extérieur qui viennent vous apporter de l'expérience. Et si possible, des gens très bons. Moi, j'ai eu la chance au handball de jouer avec des super joueurs, en fait. Et c'est ce qui m'a fait des super joueurs étrangers ou des super joueurs d'ailleurs, et c'est ce qui m'a fait... aussi progresser. Je pense à un gardien comme Dragan Mladenovic, le père de Kiki. C'était un gardien de but, mais quelqu'un qui vous apportait la gagne, en fait, parce qu'il avait cette culture de la gagne permanente. Qu'on soit sur un terrain ou dans une partie de cartes, c'était la même chose. Et donc, je pense qu'à un moment... Dans notre progression, il faudra effectivement réussir à faire venir une ou deux ou trois figures non seulement apporteront de la renommée au club, mais permettront aussi à nos jeunes talents, nos jeunes pépites, d'évoluer aux côtés des meilleurs et de les faire progresser. Donc, oui, on essaiera de le faire. Après, c'est aussi lié au développement économique du club. Je ne vous cache pas que le contexte actuel fait que ce n'est pas simple. On a, en 4 ans, on a plutôt bien réussi et bien tiré notre épingle du jeu, hein, puisque quand on s'est lancé dans le projet, on avait un budget de 300 000 euros. Aujourd'hui, on a un budget d'1 500 000 euros, donc on a multiplié par 5 le budget en 4 ans. On a vraiment structuré, professionnalisé le club. Maintenant, on est confronté, comme tous les clubs de France et de Navarre, et quelle que soit la discipline sportive et toutes les boîtes d'événementiel au sens général du terme, à la problématique du Covid qui fait que aujourd'hui on est limité en nombre de publics, on est limité en capacité à ouvrir nos buvettes, nos boutiques, etc. Et donc, on est, et c'est une réalité, privé de rentrée d'argent, qui font que c'est très compliqué de se projeter à court terme ou à moyen terme sur ce que va être l'économie du sport dans les mois et les années qui arrivent, quoi.
Et en essayant de privilégier les partenaires.
Ah, mais complètement. Alors, voilà. Nous, on a la chance aujourd'hui d'avoir des partenaires fidèles qui nous accompagnent et qui continuent de nous accompagner. Et je tiens vraiment à leur tirer, qu'ils soient institutionnels, donc je pense à la mairie de Marc, la MED ou la région des Hauts-de-France, mais également privés. Hein. Aujourd'hui, nos partenaires privés, c'est 40% de notre budget. Donc c'est énorme. Et ils sont non seulement à 95%, ils ont continué à nous soutenir, mais il y en a une dizaine de nouveaux qui sont arrivés dans le projet. Voilà, et ça c'est une chance inouïe. Mais il n'empêche que ben, on ne peut pas s'appuyer que sur des partenaires. Il faut aussi qu'on soit capable de générer nos rentrées d'argent propres. Et nos rentrées d'argent propres, elles passent par la billetterie, par le merchandising, par enfin, tout ce qui va avec les événements, en fait. Hein. Et on en parlait avant l'émission. Aujourd'hui, un spectateur qui vient voir un match, il n'achète pas seulement son billet, il va aller s'acheter une boisson, voire peut-être deux boissons. Il va s'acheter à manger. Il va peut-être s'acheter un maillot. Tout ça, ça génère aussi des rentrées pour les clubs. Et là, c'est vrai qu'aujourd'hui, le fait de jouer à huis clos ou alors en jauge très limité, parce que nous, on a encore la chance de pouvoir accueillir 1000 spectateurs dans le stade, même si ça pourrait se durcir là, avec les prochaines décisions qui tomberont, ben, c'est pas suffisant pour générer des rentrées. Donc voilà, donc, je suis pas là pour pleurer sur notre sort. Hein. C'est l'eau de tous les clubs sportifs aujourd'hui, quelle que soit la discipline. C'est l'eau aussi de toutes les entreprises. Par contre, il faut reconnaître que c'est compliqué de se projeter sur le développement futur du club, compte tenu du contexte actuel. Et donc, dans le recrutement de stars, entre guillemets, on va plutôt, dans un premier temps, jouer la prudence que d'annoncer des arrivées rutilantes qu'on ne pourrait pas se payer. N'oublions pas ce qui est arrivé au LMR il y a quelques années. Eux, ils avaient acquis leur montée en Pro D2 et pas sur tapis vert, sur le prêt. Et malheureusement, ils ont dû déposer le bilan parce que financièrement, ils n'avaient pas su gérer les choses comme il fallait.
Les DNCG sont là pour...
tout à fait.
Et aujourd'hui, d'ailleurs, qu'ils sont là malgré tout.
Et aujourd'hui, oui. Ouais. D'ailleurs, aujourd'hui, les contrôles sont beaucoup plus stricts qu'ils ne l'étaient à l'époque. Et peut-être que si les contrôles avaient été aussi stricts à l'époque, on n'en serait pas arrivé là. Et moi, j'estime qu'avoir des contrôles aujourd'hui, c'est important parce que c'est ce qui nous évite de déraper. Il ne faut pas oublier quand même que dans notre budget, il y a 40% d'argent qui vient de nos partenaires et il y a 35% d'argent qui vient de nos partenaires publics. Et donc, on joue avec l'argent des autres aussi. Et donc, on se doit de rendre des comptes et de ne pas faire n'importe quoi.
Alors, je veux dire, oui, quand même, parler vraiment du club. Alors, M. Gradel, question. Vos joueurs, ils ont l'effectif que vous aviez l'année dernière, les nouveaux. Et puis également... 450 licenciés, combien il y a d'équipes dans votre club ?
Alors, combien il y a d'équipes ? Ça, c'est une bonne question. on a à peu près un peu plus de 200 gamins à l'école de rugby. Donc, cette année, on a créé une catégorie de baby rugby. Donc, on accueille les enfants... à partir de l'âge de 3 ans. On a une trentaine de gamins, donc ça c'est plutôt sympa. Ensuite, en U6 et U8, on tourne à peu près aussi sur une trentaine de gamins. U10, U12, U10, 30, U12, U14, on est plutôt aux alentours de 40 gamins. Donc ça veut dire qu'au niveau de l'école de rugby, on fait deux ou trois équipes à chaque fois par catégorie, en fonction du nombre. Et après, en cadet junior, alors on a en cadet, on a deux équipes et en junior, on a deux équipes. On a en cadet une équipe en propre et une équipe en entente avec les clubs de Villeneuve-d'Ascq et de Marquette. Et en junior, on a cette année créé une équipe qu'on a voulu régionale. Nos juniors évoluent en Crabos et donc c'est une équipe, c'est une entente ligue, c'est quelque chose d'assez original qui existe assez peu dans le rugby français, mais nos juniors sont pas engagés au titre du club mais au titre de la ligue dans le championnat national. Et ensuite, on a une deuxième équipe en entente également avec Vinovdesk et avec Marquette.
Donc, il y a une entente régionale qui est à plus pour vous.
Ah, mais complètement. Moi, je prône le fait que si on veut permettre à nos jeunes d'évoluer dans les meilleurs championnats, enfin dans le meilleur championnat possible, ben, il faut qu'on utilise. Alors, on a la possibilité au rugby de créer ce système d'entente, et donc il faut qu'on mutualise entre guillemets nos meilleurs jeunes avec l'ensemble des clubs de la région. Et c'est pour ça qu'en junior, on a créé cette entente régionale qui a évolué en Crabos et qui évolue là maintenant en championnat national.
Donc, ce qui vous permettra, après l'épidémie, la pandémie qui est passée, espérons qu'en 2021, encore que ce n'est pas simple, d'après mes infos que j'ai eues ce week-end, ce n'est pas gagné d'avance pour 2021, mais 2022, bah, que vous avez un public plus conséquent vis-à-vis de cette entente régionale.
Ben, ça nous permettra déjà d'avoir des jeunes prometteurs pour alimenter notre futur projet, ou en fonction de leur bassin, celui de Beauvais, hein, puisque Beauvais fait partie aussi de la Ligue des Hauts-de-France. Et après, pour répondre à votre question au niveau du public, oui, nous, on cherche à attirer des spectateurs de toute la région. Alors, c'est plus facile quand on habite à 30 km ou 40 km de Lille que quand on habite à 100 km. Mais demain, notre but, c'est vraiment d'avoir, enfin, de porter un projet régional et d'attirer. On a la chance d'avoir un stade de 16 000 places. Voilà. Donc, on a de la place. Là, premier match, on avait 2 000 spectateurs. Il reste 14 000 places à remplir. Et donc, on est ouvert à toute la région et tous les amoureux de rugby peuvent venir voir des matchs au stadium.
Donc, M. Garnet,
alors ça, c'est en condition normale.
Ah ouais, bien sûr, ah ouais,
en condition
sûr.
Covid.
Non, de toute façon, je vous dis, malheureusement, on va être reconfinés, ça c'est certain. Malheureusement, c'est ce qui va nous permettre de nous sauver et pour faire un peu la fête à la fin d'année. Encore que c'est pas gagné. Mais surtout, après, avant que Clément en termine, l'effectif, comment se compose un peu? Est-ce qu'il y a des étrangers dans votre effectif?
Alors, on a... l'effectif, il est composé de 70% de gens du Nord, enfin des Hauts-de-France, soit des joueurs qui ont été formés dans la région, soit des joueurs qui sont originaires de la région, qui sont allés s'expatrier dans le Sud-Ouest ou dans le Sud-Est avant de revenir dans la région. Et puis après, on a 30% de joueurs qui ne sont pas issus des Hauts-de-France. Et dans ces 30% de joueurs, on a, un Sud-Africain, Marc Erasmus, on a un Fidjien, Joshua Navabalé, on a un Roumain, Marius Sirbe, qui a joué à un très bon niveau en France. Et donc on a quelques joueurs étrangers ou quelques joueurs qui parlent avec l'accent du Sud, on va dire.
Mais qui ne sont pas des mercenaires.
Non. On a on a un groupe de 38 joueurs au niveau des seniors et d'une quarantaine de joueurs en espoir. Sur les 38 joueurs, on a 22 joueurs sous contrat. Et dans les 22 joueurs sous contrat, on a 6 joueurs professionnels. Donc, c'est l'activité à temps plein. Ce qui est important également de savoir, c'est qu'on travaille main dans la main avec nos entreprises partenaires et on a beaucoup de joueurs qui sont plus réactifs, donc qui ont un contrat chez nous, mais aussi un mi-temps ou un deux tiers temps dans une de nos entreprises partenaires. Alors, ce ne sont pas des emplois fictifs, hein, ils travaillent vraiment. Ça nous aide aussi à faire venir des joueurs parce que les joueurs de rugby sont aussi attachés à leur reconversion. Et donc, c'est une possibilité de leur proposer un boulot à côté de l'activité rugby.
On a vu lors de votre première réception de Langon, puis la réception de Rennes, que malgré les limites imposées par le gouvernement, le public n'avait pas peur. Le public vient et le public vient pour encourager Marc. Vous l'avez dit, 2000 personnes contre Langon et quasiment jauge pleine, 1000 personnes contre Rennes. Est-ce que vous avez ce sentiment d'être un peu le représentant de la région Nord-Pas-de-Calais, le représentant du nord de la France pour donner envie un peu aux jeunes nordistes de pratiquer le rugby, être un peu cette vitrine du rugby dans la région?
Oui, clairement, avec les filles du LMRCV... Alors, je vais parler déjà département du Nord et Nord-Pas-de-Calais. puisque dans les Hauts-de-France, il y a aussi Beauvais, mais on n'est pas du tout sur les mêmes bassins géographiques, en fait. Donc oui, effectivement, aujourd'hui, le rugby qui évolue au plus haut niveau en garçon, c'est nous. On a la chance d'être dans une métropole donc assez facilement accessible des clubs qui sont autour. Et cette année, on accueille clairement un public, ce qui n'était peut-être pas le cas quand on était en Fédéral 2, mais beaucoup plus éclectique et qui est représentatif de toutes les forces vives du rugby départemental, voire régional. Ce côté de porte-drapeau, on souhaite continuer à le développer. Et c'est pour ça que c'est important, sans brûler les étapes, qu'on continue à franchir les divisions pour asseoir cette légitimité, entre guillemets, de vitrine, quoi. Voilà, mais ça se fera aussi progressivement. On cherche à attirer le public rugby, mais pas que. On cherche à attirer aussi les gens qui ont envie de découvrir une nouvelle activité. Et on a la chance, nous, d'être une activité de plein air. Donc, de ne pas avoir les mêmes contraintes aujourd'hui que les sports de salle où là... c'est beaucoup plus compliqué vu le contexte de Covid. Donc j'ai envie de dire que nous, quelque part, on s'en sort pas si mal. Et le fait qu'on soit en activité d'extérieur, c'est aussi, dans le contexte actuel, une opportunité dont on peut essayer de se servir pour faire venir de nouvelles personnes autour du rugby.
Vous êtes aussi aidé par le stadium que vous n'utilisiez pas l'année dernière, mais qui cette année donne une vitrine très professionnelle du club. C'est l'ancien stade du LOSC, c'est un stade quand même assez massif par rapport à un club de Fédéral 1 quand même.
Clément, en fait, tu vois, c'est bien révélateur de notre manque de communication. En fait, le stadium, ça fait, c'est notre quatrième année. C'est-à-dire qu'on a décidé, quand déjà on est monté en Fédéral 2, d'utiliser le stadium, mais tu vois, ça ne se sait pas. Donc ça veut dire que nous, on n'est pas suffisamment bon en com. Et qu'on a encore des progrès à faire pour que les gens le sachent. Mais effectivement, on a cette chance inouïe, c'est d'avoir cette enceinte qui est d'abord magnifique, et que ce soit pour jouer ou pour s'entraîner, hein, parce qu'on pense souvent à l'enceinte principale, mais il y a tous les terrains annexes où nos espoirs et nos seniors s'entraînent. Et c'est aussi une formidable enceinte pour pouvoir accueillir du public et leur faire vivre... d'autres expériences qu'uniquement l'expérience rugby, même si dans le contexte actuel c'est plus compliqué. Par contre, c'est une grande chance parce que dans le contexte actuel, ben, nous, ça nous permet très facilement de mettre un spectateur tous les deux places, voire toutes les trois places, et donc de garantir une sécurité sanitaire optimale aux gens qui viennent voir un match, puisqu'on est en extérieur et puis il y a de la place pour tout le monde. Voilà. Et après, c'est un super outil de promotion vis-à-vis aussi de nos entreprises et même c'est clair que nos adversaires, quand ils arrivent au stadium, ils se disent waouh, c'est quand même sympa de jouer dans une enceinte comme ça. Même des clubs qui ont joué déjà à un bon niveau sont impressionnés, quoi.
Alors monsieur Gradel, avant d'en terminer, il nous reste 5 minutes. Alors, votre projet, c'est d'avoir monté en Pro D2, c'est certain. Alors comment allez-vous faire? Quelles sont les étapes prioritaires pour vous pour y accéder?
Alors, l'étape numéro une, c'est de continuer à structurer le club en termes de back-office, parce qu'on pense souvent que réussir, c'est le sportif, mais ce n'est pas que le sportif, c'est tout ce qui se passe derrière. Et pour bien réussir, il faut un bon directeur financier, il faut être bon en communication, pour aller chercher du public, et pour remplir le stade. Donc tout ça, c'est important, il faut continuer à le faire, il faut être bon en logistique, c'est tout ce qui est dans l'ombre, quoi.
Enfin, je veux dire, l'organigramme, il doit être parfait.
Il doit être parfait, donc on y travaille. La deuxième chose, et nous, on ne veut pas changer notre fusil d'épaule, c'est-à-dire qu'on veut continuer à travailler sur la formation, et donc, bien sûr, il faut aller chercher des joueurs à l'extérieur. Mais plus on arrivera à former de joueurs, plus on pourra alimenter aussi notre propre réussite, et donc ça c'est extrêmement important. Et le troisième enjeu, il est clairement économique. Et pour réussir, il faut qu'on arrive à consolider notre socle de partenaires. Donc ça, on y travaille, mais il faut aussi qu'on arrive à développer nos ressources propres. Et là, je ne vous cache pas qu'on est en grosse phase de réflexion, parce que forcément, si on continue à avoir des contraintes aussi fortes que celles qu'on a actuellement à cause du Covid, ben, ça sera compliqué de développer une activité économique pérenne pour avoir l'ambition qu'on veut avoir. Maintenant, on n'est pas pressé. Le Covid, on l'espère pas là éternellement. Et donc, ben là, ce qu'il faut, c'est passer cette période-là en faisant le dos rond pour mieux rebondir une fois qu'on aura trouvé le vaccin qui permettra à tout le monde de retrouver une vie normale et puis de venir remplir les stades, parce qu'on a besoin de toute façon, dans toute économie du sport ou dans toute économie événementielle, à un moment, de remplir nos stades pour pouvoir vivre, quoi. Nos salles.
Dans la gestion de votre club, vous avez anticipé ce problème qui ne va pas se résoudre avant peut-être fin 2021 ?
Anticiper, oui, on essaye de l'anticiper. Aujourd'hui, je vous parlais de notre budget de fonctionnement qui est d'1,5 million. Je vais être complètement transparent. On a un risque à hauteur de 150 000 euros. Donc ça représente 10% du budget. Donc il faut qu'on trouve des solutions. Il vaut mieux se rendre compte de ce risque-là en début de saison.
30 secondes.
Il vaut mieux se rendre compte de ce risque-là en début de saison qu'à la fin de la saison. Donc on travaille pour couvrir ce risque. Mais 10%, ça reste tout à fait acceptable. Et j'ai connu des situations bien pires.
Ouais, bien sûr. Je crois qu'on a terminé. Bon, espérons que l'équipe de France batte l'Irlande le week-end prochain. C'est vrai qu'on a une bonne équipe, faut le reconnaître.
Puis on a encore un tournoi destination peut encore gagner.
Ouais, tout à fait. Une équipe très prometteuse, et on a besoin d'une équipe de France forte comme Vitry.